C'est vers l'avenir, donc sur la presse régionale qui tient bien le coup. La presse régionale. Et puis la dernière heure vient derrière, le soir encore derrière. Mais la libre, c'est le plus petit tirage. Avant l'écho, bien sûr, qui est un journal de niche. Ce qui marche le mieux, c'est la presse populaire, c'est la presse de proximité qui raconte des histoires, des faits divers, etc., etc. Et qui se fait condamner presque chaque semaine ou chaque mois par le Conseil de déontologie journalistique parce qu'ils ont commis des fautes déontologiques majeures. Mais voilà.
Les gens n'ont plus le temps de lire.
On n'a pas plus le temps qu'avant de lire, moins. On ne le fait pas, c'est tout, on consacre son temps de loisir à autre chose.
C'est ça, oui.
Puis il faut dire que, contrairement à ce qu'on croit, le temps de loisir n'a pas tellement augmenté parce que le temps consacré au déplacement travail domicile s'est accru. Donc on travaille en général moins longtemps à son travail, on consacre plus de temps à se déplacer.
Il y a plus de rédacteurs et d'écrivains que de lecteurs, je dirais.
Yelza, un peu timide, m'a demandé de poser une question. Elle trouve que l'on répercute un peu trop vite certaines déclarations. Elle fait allusion à Bardeuve, c'est-à-dire déclaration sur la sécurité sociale, etc. Et elle dit on finit par instiller dans la tête des gens l'idée que la Belgique va disparaître.
Alors, c'est évident que la politique de communication des hommes politiques est plus ou moins efficace. Il y en a qui maîtrisent mieux les médias que d'autres. Et par exemple, le bourgmestre d'Anvers est très habile à utiliser la communication, utiliser sa position à la fois de président du premier parti belge, le parti le plus important au Parlement belge, mais aussi bien sûr en Flandre, et à donc intervenir dans le débat public très souvent et avec des propositions retentissantes qui font du buzz, qui font parler, qui font réagir, qui créent donc ce que les médias adorent, c'est-à-dire le retentissement, le débat, le buzz, comme on dit maintenant. Et donc c'est très habile, c'est à mon avis le plus habile sur la scène politique aujourd'hui. Alors, est-ce que les journalistes ont tort de se laisser embobiner par cette politique de communication? En même temps, c'est quand même très difficile de dire « Ah, le président du premier parti belge a dit quelque chose, on s'en fout. Oublions ça. Ne lui donnons pas la parole. » Oui, malgré tout, on est dans un pays encore bicommunautaire, avec des inter-influences entre ce que disent les politiques du Nord et ce que disent les politiques du Sud par rapport à ça. Et donc, je pense que c'est à peu près inévitable. Ce qui serait peut-être recommandable ou ce qui serait souhaitable, c'est que aucun propos ne soit laissé sans remise en contexte. Mais je pense que ça se fait. Si vous écoutez bien, dans l'ensemble de l'information, il paraît quand même assez évident qu'on dit... Par exemple, que l'objectif de la NVA, dans ses déclarations retentissantes, c'est de regagner son électorat, Vlaams Belang, qui a été perdu au dernier sondage, et qui est regagné par le Vlaams Belang parce que la NVA ne se positionne pas assez comme ultranationaliste flamande, qu'il faut rassurer les nationalistes flamands les plus extrêmes et les ramener dans le giron de la NVA, voilà, c'est évident que c'est ça l'objectif. C'est évident que c'est ça l'objectif stratégique de ce genre de communication. Mais ça s'est dit. Si vous écoutez bien, ça s'est dit. Donc, et ça s'est dit dans la presse flamande aussi, donc c'est pas une question communautaire. Mais c'est vrai que la communication politique, c'est un art, et il y en a qui la pratiquent mieux que d'autres, incontestablement. Le fait de participer à The Slims de Münsterwild, par exemple, c'était une excellente idée.
Est-ce que...
Il a quand même de choisir toujours son bon moment. sa dernière déclaration avec sa commission est arrivée environ une semaine avant la réunion du congrès du plan pour le Beijing. Bon, ils ont pu dire, oh, nous, on est là, on est en train de réfléchir à...
C'est ce que je dis, c'est très très bien calculé, très opportun. Et on ferait bien de prendre des leçons, d'autres feraient bien de prendre des leçons chez lui.
Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de conférence avec plus de jeunes? Parce qu'ici, bon, l'âge est assez...
Je fais souvent ce genre de conférence, mais malheureusement, c'est souvent devant un public comme celui-ci.
Je me doutais.
Et les étudiants.
Ah, les étudiants, évidemment. Je donne le cours aussi à l'université.
Oui, ouais, justement.
Je dis ce que je vous dis, rien d'autre. Et ils sont très conscients, d'ailleurs, les étudiants. Ils commencent à comprendre que l'univers médiatique dans lequel ils se préparent à évoluer... a changé, donc ils sont très critiques.
Ouais.
Oui, monsieur, j'espère ça encore. Une petite question. Dans quelle mesure une entreprise publique comme la RTBF est soumise aux règles de concurrence, je suppose, au droit européen? Est-ce que c'est pour les 25% de subventions dont elle ne dispose pas, ou bien c'est pour l'entièreté de son fonctionnement? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une note, je dirais, de politique générale que défend la RTBF vis-à-vis du budget qu'elle sollicite? Et il y a des rabotages, je suppose, aussi. Et enfin, quelles sont les grosses différences entre la RTB et l'autre radio
Alors,
merci.
Institutionnellement, ça se passe comme ça. La RTBF, tous les 4 ans, conclut avec le pouvoir subsidiaire, c'est-à-dire avec le gouvernement de la communauté française, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque c'est une compétence communautaire, la radio-télévision, et que c'est la communauté française qui est l'organe de tutelle de l'entreprise publique, l'entreprise culturelle publique RTBF. Donc l'entreprise culturelle publique RTBF conclut tous les 4 ans avec ce pouvoir subsidiant qui lui donne de l'argent, ce qu'on appelle un contrat de gestion. Ça se passe comme ça avec la plupart des entreprises publiques d'ailleurs maintenant. La Poste, la SNCB... Toutes ces entreprises publiques ont un système de contrat de gestion avec la puissance publique, avec l'État ou le pouvoir fédéral. Ce contrat de gestion, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les obligations des deux parties. L'obligation de la puissance publique, c'est de mettre à la disposition de la RTBF la dotation, les moyens publics qui servent à la faire fonctionner. En disant, vous avez la possibilité de compléter cette dotation par 25% de recettes publicitaires ou de sponsoring ou de vente de programmes. Autre chose. Ça, c'est l'obligation de la puissance publique. En échange, la RTBF s'engage à toute une série d'autres choses. Par exemple, à faire des programmes pour la jeunesse, à faire des programmes pour les malentendants, à diffuser des émissions concédées, à diffuser des émissions de médiation, à faire un certain nombre de programmes, un certain nombre de journaux parlés d'information par jour, un certain nombre de journaux télévisés par jour, à diffuser 5 chaînes de radio, 3 chaînes de télévision, enfin, toute une série d'obligations à diffuser, à mettre en valeur le patrimoine de la communauté française, à faire à la fois de l'information, mais aussi de l'éducation et du divertissement. Enfin, c'est vraiment un très très long texte qui entre très fort dans les détails et qui limite en quelque sorte la possibilité de choix de la RTBF et qui lui impose une série de limites et une série d'obligations. Ce que je vais dire, c'est que cette manière contractuelle de concevoir les rapports entre l'entreprise et la puissance publique, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, les dirigeants de cette entreprise publique ont tendance à considérer que ce qu'on leur impose, c'est des contraintes et pas des missions. Pas des défis, si vous voulez, ou des missions, mais plutôt des contraintes. Donc, les émissions concédées, bon, on avait donné 3 sous, mais qui ne nous embête pas avec ça. Donc, il y a une certaine tendance à considérer que c'est comme de mettre un filtre sur la cheminée de l'usine. Vous savez. Il faut bien, parce que les règlements européens nous imposent de ne pas diffuser de fumée, mais voilà. Et donc, voilà, ça répond à votre question. Quelle est la différence entre la RTBF et RTL? Bon, c'est qu'RTL TVI...
Non,
on avait RT, c'est la même chose. C'est le même système, au grosso modo, c'est la même chose. c'est la même chose. Oui. Sauf que la liberté n'a pas la publicité. Sauf les petites plages publicitaires en radio, par-ci par-là, mais il n'y a pas, la même quantité de publicité sur les chaînes de la vérité que sur la LB. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Alors les règles de concurrence européennes, on les a évoquées plusieurs fois pour essayer d'empêcher les services publics de continuer à percevoir des dotations publiques en disant que c'était de la concurrence déloyale par rapport aux entreprises privées. Plusieurs chaînes privées ont essayé d'introduire des recours devant la Cour européenne de justice à ce point de vue-là, mais en général, la communauté européenne, l'Union européenne, considère qu'il y a une exception culturelle qui fait que les États ont le droit de maintenir des chaînes publiques dans la mesure où ces chaînes publiques sont censées répondre à des besoins que le marché ne peut pas satisfaire.
Très bien, voilà. Un tout grand merci de ce portrait de...